des livres plein les oreilles. Eh bien, nous y sommes en 2018, alors déjà pour commencer d'entrée de jeu, bien évidemment, c'est à toute l'équipe de des livres plein les oreilles, oui, à Canalem de vous souhaiter des vœux, des bons vœux, de vous souhaiter du sourire, de vous souhaiter de la sérénité face à l'épreuve, par exemple, peut-être, et de vous souhaiter des très beaux moments de lecture, notamment. Alors, à l'émission, aujourd'hui, pour ouvrir cette année 2018, je reçois Gérald Cousine. Je vous préviens, coup de foudre littéraire avec les écrits de Jean-François Caron. Serge Bradet sera là et Yannick Olassa. Pour elle, ce sera une dernière émission. Allez, on y va tout de suite avec Gérald Cousineau. Bonjour cher Gérald et bonne année.
Bonne année Clotilde, bonne année à Serge qui est là je pense.
Oui, merci. Oui Serge est là. Malheureusement l'ami Jean-François Caron et Yannick Olassa, je vais m'entretenir avec eux par téléphone, heureusement que j'ai le fidèle destrier
oh là là.
À mes côtés. Qu'est-ce qu'on va penser dites-moi mon ami Gérald, vous nous arrivez avec une drôle d'histoire pour commencer l'année.
En fait, je voulais commencer l'année avec un conte.
Oui.
Alors, ça s'appelle « Histoire du lion personne » d'un écrivain que j'aime beaucoup, qui s'appelle Stéphane Audeguy, A-U-D-E-G-U-Y, dont on trouve d'ailleurs quelques livres au SQLA, dont un roman que moi, j'avais beaucoup aimé dans le temps, qui s'appelle « La théorie des nuages ». Donc, l'année dernière, il y a 2 ans déjà, comme le temps passe vite, Stéphane Audeguy nous est arrivé avec « Histoire du lion personne », qu'on trouve d'ailleurs au SQLA. C'est un tout petit roman, à peine 200 pages, mais un très beau conte. Alors, c'est qui ça, ce lion personne?
Oui.
Eh bien, je vous amène d'abord au Sénégal. Au Sénégal, oui, nous sommes donc en Afrique, à la fin du 18e siècle, dans ce siècle dûment des Lumières. Je le dis parce qu'on se rend compte en lisant le roman qu'on n'en est pas sûr vraiment, que c'est vraiment le siècle des Lumières. Alors nous sommes donc au Sénégal, dans un petit village où il y a un missionnaire qui s'appelle le Père Blanc. Et dans ce petit village-là, il y a un jeune homme, un adolescent, qui s'appelle Yacine, que le Père Blanc, c'est pas le Père Blanc, c'est le Père Jean.
Oui, parce que je me disais, remarquez, ça aurait été joli, un père qui porte le nom de Blanc au Sénégal, ça aurait été...
Oui. Plus...
Non, mais c'est vrai, c'est vrai.
Donc,
le père Jean
a été baptisé, en fait, baptiste par le père Jean. Alors, ce jeune homme, Yacine, c'est un jeune homme qui est vraiment intéressé par la mythologie, par les mathématiques, et le père Jean lui a fait lire Ulysse.
Oui.
Et là, il lui donne une lettre de recommandation et il l'envoie au principal port commerçant du lieu, qui est Saint-Louis.
Mm-hmm.
Et donc, il part et le jeune homme s'en va avec sa lettre. Et là, tout à fait par hasard, il rencontre un lionceau. Un lionceau, de toute évidence, comme lui, orphelin.
Ah ben oui.
Et esselé. Mm-hmm. Donc, il va l'adopter et il va se mettre en chemin avec lui et il va le baptiser à son tour. Il va l'appeler Kenna. Or,
okay.
Kenna... En Wolof, ça veut dire personne.
Ah, et là, alors, on revient à Ulysse, voilà. Évidemment.
Voilà, pourquoi? Parce que dans Ulysse, rappelez-vous, et je me dis ça moi-même aussi, rappelez-vous cette scène où Ulysse répond au cyclope Polyphème, je suis personne.
C'est
si
ça.
Je me rappelle bien, c'est
oui,
comme
oui.
ça que ça se passe.
Oui, absolument.
Donc il baptise son lion personne. Alors, il s'amène à Saint-Louis, le lion et le petit garçon. C'est un lionceau, donc évidemment, il ne fait pas très peur, là. Et là, il s'en va chez le directeur général de la Compagnie royale du Sénégal, qui s'appelle Jean-Gabriel Pelletan. Alors, il va travailler là un bout de temps, et ensuite, il va travailler chez une dame très riche et qui a des esclaves. C'est important parce que le jeune homme, évidemment, n'avait jamais entendu parler d'esclaves.
Oui,
là, il découvre l'esclavage dont ses frères sont victimes. Or, le directeur de la Compagnie, Jean-Gabriel Pelletan, lui, c'est un anti-esclavagiste. Et le seul dans son coin, puisque la France fait beaucoup d'argent avec les esclaves, nous sommes encore une fois à la fin du 18e siècle, donc le directeur lui s'oppose, mais comme il est seul à s'opposer, évidemment, il ne se passe pas grand-chose. Il doit subir l'esclavage comme l'adolescent. Donc, l'adolescent va vivre là quelques temps, mais malheureusement, il va mourir presque aussitôt de la variole.
Ah.
Alors, le lion, bien sûr, en a beaucoup de peine, le
mais
lion
oui.
personne, mais entre-temps, le lion s'est fait un petit copain, un chien, un chiot bâtard. Et là, le chiot bâtard, on l'appelle, c'est assez drôle, on l'appelle Hercule, alors qu'il est minuscule. Alors, ils vont devenir copains comme cochons. Est-ce qu'on peut dire ça, un lion et un chien qui deviennent copains comme cochons? Je le dis. Oui. Alors, donc, le lion se prend d'amitié pour le Hercule et les deux vivent vraiment une très belle période aux côtés de Jean-Gabriel Pelletan, le directeur de la compagnie. Mm-hmm. Alors, imaginez, là, il y a des scènes très drôles. On voit Jean-Gabriel Pelletan marchant dans les rues de Saint-Louis avec le lion et son caniche. Et le petit chien à côté. Alors, les gens commencent à avoir peur parce que le lion grossit,
évidemment. Il commence, évidemment.
Il prend du poids, mais comme il est domestiqué, il ne fasse absolument rien. Mais un jour, il y a un jeune, le fils d'un noble qui asticote le lion. Et là, le lion va lui donner un coup de patte et le jeune garçon va revoler en tout cas, à quelques mètres. Mm-hmm. Et là, évidemment, Jean-Gabriel Pelletan se rend compte que non, ça ne peut plus marcher. Le lion commence à être gênant. Alors, il va l'envoyer en France par bateau. Mm-hmm. Et là, c'est décrit d'une façon incroyable. C'est à la fois beau et effrayant, parce que c'est une épopée sordide. Le lion et son ami, le chien, sont enfermés dans la cale, sont pas nourris, sont pas abreuvés. Donc là, ils vont manger des rats, ils vont boire de l'eau croupie. Ils vont arriver au Havre, en France, vraiment, on parle d'un lion famélique et un chien pelé qui arrive au Havre, en France. Et là, c'est un certain Jean Dubois qui va les accueillir. Et lui, va les soigner, il va les nourrir, les amener à la ménagerie royale de Versailles. Mmh. Mais quand ils arrivent à Versailles, là, je vous rappelle, là, nous sommes en 1788, à un an de ce que vous savez, la Révolution.
Bien sûr.
Alors, la ménagerie a été abandonnée, elle est délabrée, il n'y a plus rien dedans. Il va essayer de remettre ça sur pied, il va nourrir les animaux, les soigner, et là, ça va assez bien. Et donc, ça se passe à la ménagerie royale de Versailles. Mmh. On parle d'un certain Buffon, qu'on connaît bien, évidemment. Mmh. Et là, il s'amène un autre monsieur qu'on connaît bien, Bernardin de Saint-Pierre, qui n'était pas seulement l'écrivain de Paul et Virginie, mais un naturaliste.
Okay.
Et lui s'occupait des jardins royaux à Paris. Alors, notre ami Personne et le chien Hercule vont se retrouver au jardin zoologique de Paris. Et là, ils vont devenir des vedettes. Vedettes auprès du grand public. Malheureusement, la révolution va éclater, Hercule va mourir de maladie et Personne va mourir, lui, quand même quelques années plus tard, en 1787. Donc, le lion, lui, traverse la révolution française, mais il va mourir en 1780. Et c'est vrai, hein, il a vraiment vécu à la ménagerie ou à Paris jusqu'en 1787.
C'est une histoire vraie. C'est ce que
c'est
vous êtes en...
Vraie.
Oui?
Okay. Oui, de toute évidence, parce que le monsieur, on apprend que l'auteur s'est documenté à partir même des annales écrites au 18e siècle.
Ah oui, en
donc,
effet.
Par exemple, il a même lu Bernardin de Saint-Pierre qui parle de l'amitié qui lie le lion et le chien. Donc ça, c'est vraiment du Bernardin Saint-Pierre. Et ça se retrouve dans le roman. Donc, de toute évidence, il est formidablement bien documenté.
Mm-hmm.
Mais ce qui est frappant pour nous, lecteurs du 21e siècle, c'est à quel point on oublie un peu facilement que pendant la Révolution, l'esclavage était toujours en vigueur.
Oui.
Napoléon, c'est la Révolution qui va l'abolir, mais notre ami Napoléon va le rétablir. Donc l'esclavage est toujours là, et de voir ce lion et ce chien traverser cette époque troublée, c'est très beau. On pense à Voltaire, une espèce de conte philosophique à la Voltaire.
Oui, oui, oui.
C'est très beau, et c'est formidablement bien écrit. Mais en même temps, on se dit, bon sang, mais qui est l'animal dans tout ça, là?
Oui, oui, c'est ça, là, j'imagine.
Le lien, Personne et Hercule sortent grandis alors que les humains...
c'est pas vraiment. J'ai un tout petit extrait ici. On est encore au Sénégal, au moment où le lion n'est encore qu'un lionceau qui vient, je pense, d'être trouvé par Yacine. Et on va s'apercevoir de cette belle écriture. Le lionceau s'endormit. Les humains se turent. La pirogue filait au ras des eaux dans un étincellement d'écume. Yacine s'installa sur deux défenses et, sur ce lit d'ivoire étonnamment confortable, il s'abîma dans la contemplation des nuages qui défilaient au-dessus d'eux. Et ces signes intangibles et pourtant réels, qu'aucune vie humaine n'épuiserait jamais la vastitude du monde, lui firent venir des larmes aux yeux. C'est magnifique. C'est magnifique et je vais vous dire, vous savez, juste après vous, je vais m'entretenir avec Jean-François Caron et je retrouve dans la, une parenté dans ces deux écritures-là, celle de M. Stéphane Audeguy et celle de Jean-François Caron, dont je suis tombée en amour, mais alors éperdument. Je parle de littérature, bien sûr.
C'est un très beau conte, oui, mais en même temps, c'est un conte désenchanté.
Oui.
Parce qu'évidemment, l'homme est dévêtu, nos illusions tombent. Là, vraiment. Mais ça n'en reste pas moins un conte et c'est tellement bien écrit qu'on est pris par l'histoire et voilà, on est pris, on est captif jusqu'à la fin.
Eh bien, merci beaucoup. J'ai très hâte moi-même d'aller chercher ce livre-là, Gérald Cousineau. On rappelle le titre, Histoire du lion personne de Stéphane Audeguy, A-U-D-E-G-U-Y. Eh bien, ravi de vous garder avec nous pour toute la saison.
Oui, évidemment.
Ah, merci Gérald. On vous embrasse fort. Au revoir.
Moi aussi, au revoir.
Quand le vent souffle ainsi, c'est lui qu'on écoute, rien d'autre. Bonjour Jean-François Caron.
Bonjour.
Vous reconnaissez ces mots-là?
Ben oui, je pense que j'ai écrit ça. Hein?
Oui, monsieur, vous avez écrit ça. Quand le vent souffle ainsi, c'est lui qu'on écoute, rien d'autre. Ouf, je le disais à ce moment-là, vous n'étiez pas encore en onde, je le disais au moment de vous annoncer que j'avais vraiment reçu en plein cœur un coup de cœur littéraire. Je dois dire qu'à ma grande honte, je n'avais pas encore lu du Jean-François Caron. Eh bien, voilà qui est fait et je suis d'autant plus heureuse de venir présenter les trois livres qui sont enregistrés pour les personnes atteintes d'une déficience perceptuelle quelconque via le SQLA. Parce que, est-ce que vous le saviez, Jean-François Caron, que vos livres avaient été enregistrés en audio adapté?
Ben, je savais pas que mes trois romans l'avaient été. Je savais que le projet avait déjà été fait pour nos échouries. Puis, on nous avise pas nécessairement que ça arrive, mais je suis vraiment très content de ça parce que moi, j'écris toujours à voix haute quand j'écris mes romans.
Alors, vous m'enlevez une de mes questions parce que pour moi, c'était évident. C'était évident à la lecture à voix basse que ça s'était écrit à voix haute. Mais vraiment. Mm-hmm. Ah, Jean-François Caron.
C'est vraiment fait pour être entendu. J'aime que ça sonne, j'aime qu'on puisse entendre une voix quand on lit. D'ailleurs, ma mère me dit, moi, quand je te lis, je me berce puis j'ai l'impression de t'entendre.
Donc, c'est tellement
c'est
ça.
C'est ma voix.
Je n'aurais pas pu mieux le dire que ce qu'en dit votre maman, Jean-François. Jean-François, il y en a beaucoup qui vous connaissent comme étant celui qui écrit, mais celui qui est un passionné aussi de route et de camion et qui a même été jusqu'à être camionneur lui-même, mais de moins en moins maintenant, hein?
Oui, c'est ça. Maintenant, j'ai réussi parce que, bon, à travers toute mon œuvre, à travers tout ce que j'ai écrit, je me suis beaucoup intéressé à la situation des villages.
Oui.
Et puis, moi, je vis dans un petit village qui s'appelle Sainte-Béatrix, donc dans le fond d'un rang et tout ça.
Mm-hmm. Puis, c'est la Naudière, hein?
Oui, c'est ça, exactement. Dans le nord de Joliette, à 20 minutes à peu près de Joliette.
Mm-hmm.
Puis, il y a un poste qui s'est ouvert à la petite bibliothèque du village. Et quand j'ai vu que ça s'était ouvert... pour moi, ça a comme été, c'est le moment ou jamais. Là. Il fallait que j'entre là, que je vive avec les livres comme ça, mais aussi avec les gens du village, que je puisse les questionner, les entendre, entendre leurs histoires et tout ça. Donc, je viens de commencer, ça fait quelques semaines à peine, puis déjà, là, c'est très, très riche pour
vous. Êtes heureux là.
Vous
avez plongé dans les mots, là.
Oui, c'est ça. Comme j'avais plongé de la même façon dans le camion aussi, puis dans le transport, je me suis rendu jusque dans l'ouest des États-Unis. J'ai beaucoup, beaucoup aimé les gens que j'ai rencontrés, les voyages, des paysages et tout ça. Moi, en fait, c'est ça, être écrivain. Hein. C'est avoir le droit de se réinventer, puis de faire des nouvelles choses pour apprendre la vie différemment, puis pour la découvrir, en fait, la comprendre différemment.
Oui.
Puis toutes ces expériences-là que j'ai vécues m'ont amené ailleurs. Puis là, ben, j'ai hâte de recommencer à écrire pour tout ce que j'ai appris, justement, là, dans les dernières années.
Vous allez avoir le temps?
Ben, bien plus maintenant que quand j'étais camionneur, parce que camionneur,
oui,
c'est 70 heures par semaine avec seulement 36 heures de repos. Donc,
exactement.
Maintenant, là, c'est un poste à temps partiel. J'ai le temps d'écrire, j'ai le temps de lire, de respirer, de profiter de ma famille aussi. Donc, c'est autre chose complètement.
Alors, je le disais, l'écriture, parce que moi, c'est ce qui m'a marqué. Bon, je vous avouerai que je n'ai pas eu accès malheureusement aux trois livres, mais j'ai pu au moins, via la bibliothèque numérique, avoir accès à Rose Brouillard, le film, que j'ai fini ce matin avec, dans un déluge de larmes.
Mon Dieu.
Oui, mais c'est vrai, et ce sont vos mots qui me touchaient, parce que oui, évidemment, il y a l'histoire, mais ce qui rend cette histoire particulièrement troublante, c'est la façon dont les personnages sont amenés, c'est la façon dont les événements sont amenés. Et bon, alors il y a donc cette femme hein, qui d'abord est une petite fille qui apparaît sur une île où vit O'Neill, hein, cet homme seul.
Ouais.
Enfin, seul, depuis qu'il est veuf, mais ça, on le sait pas au début non plus. On en découvre des choses au fur et à mesure. Hein, il y a et c'est très onirique, hein, comme bah, je veux dire, c'est pas un rêve, mais enfin, c'est. On a l'impression d'ailleurs dans votre introduction, vous avez choisi un petit mot de Monsieur Perrault que j'ai trouvé très ouais. très beau, que je suis en train de retrouver en tournant les pages de mon iPad, qui n'est pas très très collaboratif aujourd'hui, mais on va finir, lui et moi, par s'entendre. Vous savez, c'est un petit rapport amour-haine entre lui et moi aujourd'hui. Alors, ah voilà, je sens que je vais vous trouver là. Ça, c'est tellement beau. Rose Brouillard, oui, ça on le sait, le film. La voici. Les pays prennent naissance dans la mémoire et la mémoire ne manque pas d'imagination.
Oui.
Pierre Perrault.
Oui, c'est ça. En fait, pour moi, c'est important. Dans ce roman-là particulièrement, je me suis intéressé beaucoup à la mémoire et à la façon dont elle se construit, la façon oui. dont on se souvient des choses aussi.
Oui.
Puis souvent, quand on lit un livre, bon, il y a une évolution chronologique. On suit mm-hmm. les événements de la façon dont ils viennent. Mais quand on se souvient de notre passé, souvent, des idées vont nous amener à d'autres qui se sont passées pour des événements qui se sont passés à d'autres moments. Et c'est un peu cette structure-là, un peu anarchique qui m'intéressait.
Oui.
Alors, j'ai voulu justement faire ressortir les voix de personnages de façon à présenter les choses comme elles venaient, non pas dans une suite logique suivant l'évolution du temps, mais dans une suite logique suivant l'évolution des idées, des pensées.
Mais on vous suit bien, Jean-François.
Un parfum nous amène à parler des trois sœurs fleurs, puis on va aller comme ça découvrir d'autres personnages qui nous amène encore d'autres informations sur Rose Brouillard. Donc,
mais cette structure anarchique, comme vous la qualifiez, on la suit vraiment très très bien, et c'est ce qui crée le charme littéraire hein, de votre livre, et puis cette façon d'amener les personnages, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui interviennent. Alors, pour le préciser aux gens qui nous écoutent, à chaque fois, chaque nouveau chapitre, appelons-le comme ça, ou passage qui est consacré à un personnage qui parle toujours au jeu, est précédé de « je suis ». Donc là, par exemple, « je suis Rose ».« Je suis Rose alors que la mémoire continue d'être menacée des plus graves disparitions ». Alors, on comprend que c'est Rose qui va s'exprimer et que c'est par son... Voilà, et qui va prendre la parole. Vous faites même parler, ça, j'ai tellement trouvé ça joli, une fenêtre.
Mm-hmm.
Ah, ça,
pourtant,
j'ai trouvé...
Les fenêtres parlent tellement.
Oui, mais, oui, mais,
dedans,
oui, mais c'est joli d'avoir pensé à le faire dans un livre. Mm-hmm. Hein, cette fenêtre qui voit, bon, bah, qui voit l'océan, bien sûr, mais qui voit aussi tout ce qui se déroule. Parce que vous nous amenez très loin, hein, et dans le temps et dans l'espace. Parce que vous nous amenez même pendant la guerre.
Oui, à Vincennes, oui. Hein,
voilà. Vous nous amenez donc sur le fleuve lorsqu'on pense que des bateaux allemands vont venir sillonner et que ça prend des gens pour être là, pour veiller au grain. Vous nous amenez, en filigrane, mais quand même à Cuba.
Oui, tout à fait.
Hein? Non, mais c'est fou. Alors, en partant de Sainte-Marie, qui a été rebaptisée, parce qu'au départ, c'est Sainte-Marie.
Oui, mais c'est un village qui n'existait pas, par exemple.
Non, c'est ça, c'est un village.
J'invente mes villages.
Voilà, vous avez inventé ce village, mais il n'y a même pas un petit endroit qui pourrait correspondre, genre l'île verte, ou je ne sais pas, en tout cas, non?
Non, ben en fait, moi, non. Je le voyais plus sur la côte nord, mais en fait, ce n'est pas vraiment important, parce
c'est
que moi,
important.
Je me suis inspiré de différents villages côtiers, puis de différentes situations qui sont vécues sur les îles du fleuve, de façon à pouvoir nourrir justement ces villages-là. Mais j'ai voulu aller tellement loin, je voulais pas que personne le prenne personnellement. Mmh, par contre, les choses qui sont dont il est question dans mes romans, dans celui-là, mais aussi dans De bois debout qui vient d'être publié, mais aussi dans Nos échoueries. Alors, toute la question de la survie des villages, des difficultés qui sont rencontrées, Pour moi, ça devient universel. C'est dans tous les villages du Bas-Saint-Laurent, c'est dans tous les villages de la Côte-Nord, de la Gaspésie. Il y a quelque chose qui nous rejoint tous dans la difficulté de continuer de subsister dans ces villages-là.
Jean-François Caron, vous êtes aussi amateur d'exercices de style. Par exemple, il y a cette gentille voisine aux paroles fluides, sans point ni virgule et sans majuscule, éberluée devant le spectacle du corps nu de Rose, etc., etc. Et effectivement, elle, quand elle s'exprime, il n'y a pas de majuscule, il n'y a pas de point, il n'y a pas de virgule. Permettez-moi d'avoir une pensée pour le lecteur qui sait, entre parenthèses, taper ça, parce que ce n'est pas évident. Mais alors ça c'est pourquoi? Pourquoi un exercice de style comme celui-ci et pourquoi sur ce personnage-là?
Ben celui-là en particulier parce que je voulais que au niveau de la sonorité, on entende qu'il y avait quelque chose de à ce point de fluide, de coulant, de un espèce de rythme beaucoup plus accéléré dans la pensée, dans ce qui était raconté. Donc, pour moi, il y avait quelque chose dans ça. Mais j'aurais pas fait un roman complet comme ça. Quoi qu'il y en a qui l'ont fait. Hein.
Oui.
Mais moi,
on les lit pas. Juste... Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai.
Mais je trouvais ça intéressant parce que ça répond un peu à une façon que certaines personnes ont de penser, justement, puis d'imaginer le monde et de le réfléchir. Oui. Donc,
c'est vrai. Alors, écoutez.
Il y en a qui pensent vite, vite, vite. Il y en a qui prennent vraiment le temps de poser les choses dans leur tête. Donc, c'est différent.
Alors, il y a cette écriture. En seconde partie, Jean-François Caron, j'ai toujours l'habitude de lire un extrait un petit peu plus long. J'ai choisi de lire, je vous le dis tout de suite à vous, l'extrait lorsque Dorothée prend la route et qu'elle écoute Billie Holiday. Parce que, j'ai trouvé ça absolument... moi, ça m'a jeté par terre. Et j'avais l'impression d'entendre aussi la voix de Billie Holiday, d'ailleurs, qu'on écoutera en partie aussi, en seconde partie. Mais là, je voudrais lire... Nous sommes en page 110. Et c'est Rose qui parle, qui dit « Mais alors, je ne comprends pas vraiment ce que c'est d'être humain. Ce n'est ni le corps, ni la parole qui vient toute seule, ni la pensée toute croche, ni la morale trop droite pour qu'on y adhère. Ce n'est pas le souffle incessant, les cheveux dans le vent, les yeux dans l'eau, les rêves, le rire, la peur ou l'amour. Être humain, c'est ce qu'on est au travers du monde, pas sur une île du fleuve, pas dans une archipel embrumée. Être humain, c'est être ce qui grouille de partout, dans une ville avec du monde et du monde, qui bouge, qui court, souvent, qui marche, rarement. Qui mange, qui parle tout seul, qui pense tout croche, qui se fout de la morale, qui conduit, qui fait du vélo, qui s'enfarge, qui maugré, qui se touche. Mon Dieu, que ça se touche, ça se frôle, ça s'accroche. Et je pourrais comme ça continuer longtemps. C'est une délectation de lire ça à voix haute, vraiment, Jean-François Caron. Il nous reste quelques minutes. Je voudrais aussi, alors là, on parlait de Rose Brouillard, le film, mais nous avons déjà enregistré De Bois Debout. C'est déjà disponible ici maintenant en audio.
D'accord.
J'aimerais que vous nous en parliez un petit peu de ce livre-là.
Oui, ben dans celui-là, je me suis intéressé beaucoup plus à l'univers des hommes parce que j'avais beaucoup parlé des femmes puis de la réalité des femmes vieillissantes et tout ça. Mm-hmm. Puis là, je me suis intéressé vraiment à la question des hommes, à la façon dont parfois les choses se disent peu ou se disent mal entre les hommes. Puis je me suis intéressé beaucoup à la question du père, de l'absence du père, comment on survit après la mort d'un père, quelque chose comme ça. Mm-hmm. Donc c'est l'histoire d'un jeune homme qui perd son père dans une situation un peu étrange. Son père se fait tuer d'une balle dans la tête par un policier dans une espèce de guet-apens qu'on comprend plus ou moins bien dès le départ. Là, mais on est comme un peu le personnage principal, le jeune homme. Mm-hmm. On ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas pourquoi c'est arrivé. Mais on essaie de survivre à ça avec lui. Donc, c'est dans le rythme, c'est beaucoup plus bougeant comme
roman. Okay.
Il y a de l'excitation, il y a de la course, il y a même, je me suis amusé à faire quand les policiers poursuivent quelqu'un en voiture, là, il y a ça dans le roman. C'est vraiment dans l'action, c'est dans le brut. Mm. Il y a du bûchage, il y a des on s'en va dans le bois avec eux autres, ça sent l'essence, ça sent l'humus du bois, ça sent... c'est beaucoup plus dans ça.
On n'est plus dans l'air iodé de Sainte-Marie.
Non, c'est ça. Là, je suis vraiment... je suis allé plus dans les terres. Là. Je me suis inspiré un petit peu. En fait, le village n'existe pas, mais mon village que j'ai inventé, qui s'appelle Paris-du-Bois, est installé quelque part là, dans les terres vis-à-vis Lillet, Montmagny, dans ce coin-là.
Encore un du bois?
Oui, c'est du hein? Paris du Bois, oui, oui.
dans la presse, je ne sais pas qui avait écrit, mais en tout cas, c'est très beau comme phrase au sujet de ce livre « De bois debout ». C'est beau comme le non-dit de l'amour et le trop-dit des silences, dans les replis de la folie qui guette, dans les livres qui guérissent de tout. C'est tout un compliment, ça, monsieur.
Oui, c'est extraordinaire. Je suis vraiment chanceux de tout ce qui se dit sur ce roman-là, puis de toute la façon dont c'est reçu. Puis je le vois ici à la bibliothèque mm-hmm. aussi. Les gens l'empruntent, les gens veulent le lire, veulent.
Ah oui.
C'est extraordinaire ce qui se passe avec ce livre-là présentement. Puis là, il est en liste pour le prix des collégiens. Alors il y a des étudiants de tous les cégeps qui vont le lire, puis même des cégeps outre-mer qui vont le lire aussi. C'est extraordinaire ce qui se passe présentement.
Et je vais m'y mettre aussi.
J'en profite, j'y crois à peine tellement c'est beau.
Oh, mais je suis tellement contente pour vous, Jean-François, parce que c'est tellement formidable de voir des écritures comme la vôtre, là, tout d'un coup, qui se révèlent peut-être un public un peu plus grand. C'est pour pas que ça reste trop, je sais pas, comment on dit, privé, comment, en petit cercle, quoi.
On écrit
en
pour
cercle.
Être lu, hein.
Mais
c'est
oui, absolument.
Au bout du compte, puis,
il nous reste quoi, 1 minute, 2 minutes, juste quelques mots sur nos échoueries. J'en connais la teneur, j'en connais le résumé, je voudrais que vous nous en parliez. Là encore, hein, vous nous amenez dans un minuscule village du bord du fleuve qui existe.
Oui. En fait, je me suis inspiré beaucoup de Saint-André de Kamouraska, mm-hmm. Où j'ai vécu, moi, quand j'étais enfant. C'est pas exactement D'accord. la même chose, là. C'est pour ça que je l'ai renommé, puis que mm-hmm. j'ai transformé certaines choses à l'intérieur, dans le décor et tout ça. Mm-hmm. Puis, c'était mes premières découvertes du monde du village, si on veut. Je m'inspirais beaucoup de mes propres souvenirs dans ce village-là. Alors, c'est pour ça que j'ai collé un peu à cet endroit-là. Mm-hmm. Puis, en fait, c'est l'histoire d'un homme jeune qui, après la mort de ses parents, revient dans son village natal. Il va dans la maison où il avait vécu quand il était jeune, puis il redécouvre un petit peu ce village-là, mais... Mm-hmm. C'est un village qui a évolué beaucoup, puis lui aussi a évolué. Donc, il y a bien des choses qui ont changé depuis le temps, puis il y a bien des choses qui n'ont pas changé aussi.
Oui, oui.
Et des
oui.
fois, on peut être déçu quand on revient dans le passé comme ça, puis des fois, on peut être surpris de ce qui se passe. Alors, c'est un peu tout ça là, qui trame derrière le roman.
J'ai un tout petit extrait. Il m'aura fallu beaucoup de temps pour comprendre. Les plus belles histoires sont celles qu'on se raconte.
Oui.
Jean-François Caron, plaisir de vous lire, plaisir de m'entretenir avec vous. Je rappelle que vos livres « De bois debout »,« Nos échoueries » et « Rose brouillard le film » sont disponibles via le SQLA. Merci beaucoup et surtout continuez d'écrire, hein. Ne nous lâchez pas.
Merci beaucoup. OK, bonjour.
Et au revoir, bonne journée. Des livres plein les oreilles, la suite. J'ai l'autoroute en horreur. Ça ne chante pas, ça ne parle pas, ne comble pas, n'éblouit pas. Dans l'habitacle, Billie Holiday m'égratigne le cœur de vieux enregistrements piratés que je me tape en boucle depuis des semaines. Une musique sale où l'on entend frotter l'aiguille sur le vinyle dans un léger grésillement cyclique. Les 4 vitres baissées de la voiture ne suffisent plus à faire entrer le vent que je voudrais sentir sur mon corps. Fait chaud. Le pare-soleil côté conducteur est simplement tombé. Il y a de cela 2 étés.
Just misses what kisses.
Le soleil me baigne le visage. Dans ma tête, de brûlants projecteurs aspergent celui de Lady Day, éclaboussant un piano à queue noire qui disparaît tellement et forte la présence de la chanteuse. Un vent du fleuve.
This year's crop of kisses is not for me.
Je suis Lady Day, près du piano noir à queue qui reflète la lumière des projecteurs et sur lequel elle vient de déposer son verre vide. Il fait chaud à ce point sous les projecteurs. Je sue dans les volutes de fumée bleue. Mon front, mes tempes, ma lippe sont criblées de gouttelettes de sueur. On m'offre un mouchoir, j'éponge mon front et ma nuque sans fléchir, sans ralentir, sans jamais mourir. Je ne suis pas morte, je m'appelle Billie, Billie Holiday, et je ne mourrai jamais. Pas morte, Billie. Elle ne mourra jamais. J'ai moins chaud en y pensant. Voilà, c'est un extrait, un bref extrait sur la musique de Billie Holiday, bien sûr, de ce livre formidable dont on a abondamment parlé en première partie, un livre de Jean-François Caron qui s'intitule « Rose brouillard, le film » et qui est disponible évidemment en version audio adaptée. Je me tourne tout de suite vers mon ami Serge Bradet. Bonjour Serge.
Bonjour Clotilde.
Vous devez être passionné, vous, par tout ça, parce que quand même, Jean-François Caron, ça raconte un paquet d'histoires. On remonte à la guerre, hein, vous le passionnez d'histoire. Alors, il y a eu aussi l'histoire du lion personne dont nous a parlé. Deux personnes. Alors vous nous arrivez avec quel personnage de l'histoire?
Le fléau de Dieu.
C'est-à-dire?
Attila.
Ah!
Attila, le fléau de Dieu, ce guerrier conquérant des années 450 quelques avant Jésus-Christ.
Le roi des Huns.
Le roi des Huns. Que l'on qualifie le fléau de Dieu parce que, semble-t-il, lorsque lui et ses armées étaient passant quelque part, l'herbe ne repoussait jamais.
Ah oui, c'est vrai.
Ouais. Parce qu'il brûlait tout, il répandait du sel, et il y avait tellement de sang sur les champs de bataille qu'apparemment, il repoussait. Oui. Mais ça a repoussé après les siècles, ça a repoussé.
Certainement, oui. Enfin, quand même.
Oui. Alors, c'est un livre, c'est un trailer, c'est pas une biographie historique. Là. Mais c'est basé sur des faits historiques. C'est un trailer, vous avez des rebondissements, tout ça. Alors, ceux qui aiment ce genre de livre seront servis.
Ah oui?
Oui, alors, juste quelques mots au début. Clive Cussler, l'auteur, et auquel le livre, avec une collaboration de Thomas Perry, ça s'appelle « Les tombes d'Attila ». Pourquoi « Les tombes », je vous l'expliquerai un peu plus tard. Alors, Cussler a grandi à Alhambra, Californie, et après des études au collège de Pasadena, il a été dans l'armée de l'air américaine pendant la guerre de Corée, et il a travaillé ensuite à Hawaï comme mécanicien d'avion. Il a ensuite été dans la publicité et il est devenu rédacteur puis concepteur pour deux des plus grandes agences américaines. Il commence à écrire en 1965. Mm-hmm. C'est pas le succès tout de suite, mais son succès est venu avec un livre en 1977, « Renflouer le Titanic ». Ça vous dit-tu quelque chose? Il y a un film qui a été tiré où on remontait le Titanic à la surface. C'était avant qu'on découvre, évidemment, que le Titanic avait été, lors du naufrage, scindé en deux.
C'est ça, exactement.
Alors, on le remontait, on le remontait vraiment seul morceau.
D'accord.
Alors, donc, il a écrit beaucoup, beaucoup de livres historiques. Je vous donne quelques titres. Panique à la maison, Trésor, Sahara, L'or des Incas, L'Atlantide, Le trésor du camp, etc.
OK.
Alors... Dans ce livre, c'est un livre qui commence, le premier chapitre se passe évidemment en 453, après Jésus-Christ, lors des funérailles d'Attila, le guerrier. Mm-hmm. Attila est mort durant sa nuit de noces avec sa Xème épouse, d'une hémorragie...
Pauvre petit loup, d'une hémorragie...
D'une hémorragie nasale. Mon Et vous Dieu. Savez qu'on peut mourir de ça, une hémorragie nasale.
Ben, certainement, ouais, si vous me le dites, c'est parce que si ça n'arrête pas... Mais alors, lui qui a tellement fait verser le sang, c'est quand même incroyable.
Il est mort dans son sang.
Il est mort dans son propre sang pendant une nuit de noces.
Ouais. Mais cependant, aussi, il y a toujours la rumeur de l'empoisonnement qui circulait.
Ah.
Et c'est une des voies que prend l'auteur, parce qu'il y avait un diplomate de l'Empire romain de Constantinople. À ce moment-là, l'Empire romain était divisé en deux. Il y avait un reste de gloire de l'Empire romain en Italie, mais qui était envahi justement par Attila et par d'autres conquérants. Et il y avait l'Empire de Constantinople, qui est quand même assez, à ce moment-là, assez florissant. Et il y avait un diplomate qui était dépêché auprès d'Attila. Et dans le livre, lui avoue qu'il aurait administré un poison avec un effet très, très, très lent à Attila, ce qui l'aurait fait mourir au bout de plusieurs mois. Il lui administrait ça à dose très, très petite.
Ah,
alors,
oui.
Ça, c'est là, bon. Bon. Alors, c'est ça, c'est la petite... on ne sait pas là, si c'est ça,
c'est
mais...
C'est pour la petite histoire, on n'est pas sûr, il n'en est pas question dans le bouquin, là, de ça.
Dans
les temps d'Attila,
on parle du diplomate Priscus qui a été... c'est vrai, par exemple. Le diplomate a vraiment été... J'ai lu d'autres livres sur Attila. J'ai vu d'autres émissions également, documentaires, et on parle de ce diplomate-là qui a des écrits concernant son passage, qui a laissé des écrits concernant son passage à la cour d'Attila. Donc, le roman commence, le trailer commence en Floride. Mm-hmm. Ce sont deux chercheurs d'épaves, deux chercheurs de trésors, Sam et Rémi. Rémi étant le nom d'une femme, je sais pas c'est quoi l'équivalent en anglais du prénom Rémi. Ça m'a pris quelques pages à comprendre que c'est une femme, parce que quand ils ont parlé qu'ils se rejoignaient le soir au lit, tout ça, et qu'ils la trouvaient charmante, tout ça, je suis d'accord, c'est une femme.
OK, d'accord.
Ça a été clair à ce moment-là. Alors, et ce sont des chercheurs d'épaves très sympathiques. De trésors très sympathiques, parce que ce sont des gens qui ont fait fortune en inventant un appareil pour le domaine médical. Mm-hmm. Et ils l'ont revendu ils l'ont cédé à une grosse multinationale. Évidemment, ils ont eu un montant très, très confortable, ce qui leur permet de vivre jusqu'à la fin de leur jour. Des rentes. Et comme ils sont passionnés d'archéologie, ils sont des amateurs, ils n'ont pas fait d'études ensemble, ils sont passionnés, alors ils se consacrent à la recherche de trésors. Alors, ils sont en Floride. Et ce qui les rend très sympathiques, c'est qu'ils sont pas, ils veulent pas le garder pour eux, le trésor. Quand ils trouvent un trésor, ils le remettent automatiquement aux autorités, mm-hmm. au pays en place. Alors, ils sont très bien vus par les musées des différents pays où on va aller. Ils ont beaucoup d'aide des services policiers, parce qu'ils ne veulent pas voler, ils veulent simplement faire connaître ça et le remettre
aux autorités locales.
Pour que les populations en profitent,
bien
pour
sûr,
faire enrichir
bien
l'histoire.
Sûr.
Alors, ça débute en Floride, ils sont à la recherche d'un trésor, et ils reçoivent un courriel d'un professeur allemand, le professeur Albrecht. Albrecht, mm-hmm. Albrecht, qui leur dit: écoutez, j'ai découvert quelque chose de fascinant et j'aurais besoin de votre aide. Alors, ils vont le rejoindre en Allemagne, et là, il leur dit: écoutez, il leur montre ce qu'il a trouvé, c'est un squelette d'un soldat, mais qui ne serait pas mort, au cours d'une bataille. Il a réussi à trouver ça, évidemment, avec différentes
techniques, j'imagine, sur les os, tout ça.
Et ils se mettent à fouiller et ils en trouvent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils en trouvent 1000. 1000 soldats qui sont morts, et pas au cours d'une bataille. Et là, on se rappelle que les grands conquérants de l'Antiquité, Attila, Genghis Khan, Alexandre le Grand, leurs tombes n'ont jamais été retrouvées. Parce qu'ils ont été enterrés dans des endroits très, très, très perdus. Et on envoyait des gens les enterrer, généralement des soldats très fidèles à la garde rapprochée. Et à ce moment-là, ils enterraient, mm-hmm. ils couvraient ça, et quand ils revenaient au camp,
ils
étaient tous tués. Pour ne pas qu'on découvre le trésor.
Oh.
On découvre le lieu. Et même la tombe d'Attila, à ce moment-là, la tombe d'Attila, ils ont enterré le trésor, la tombe et le trésor, et c'était sur le bord d'une rivière, et ils ont détourné la rivière pour que la rivière passe sur la tombe. Alors, imaginez-vous. Alors, c'était...
Avant de la trouver, c'est quelque chose, oui.
Alors, le roman, pourquoi on parle des tombes d'Attila, c'est qu'il y aurait 5 tombes.
Okay.
Qui aurait été enterré. Alors, dans le roman, dans le trailer, vous vous promenez là, entre la Hongrie, où on découvre un premier trésor, la France, au champ catalonique, où aurait eu la grande bataille, qui fait qu'Attila se serait retiré après ça. Il n'aurait pas été vraiment vaincu, mais il aurait préféré se retirer. Un autre trésor était caché à Mantoue, en Italie. Un autre au Kazakhstan, et on finit à Rome.
En effet.
Oui. Ouais. Alors que l'histoire vraie, ça c'est vraiment arrangé avec le roman, mais l'histoire vraie nous dit que la tombe se trouve probablement en Hongrie où il est mort.
Ben d'ailleurs, Attila, c'est un prénom très hongrois.
Hongrois, oui, absolument.
Quand vous allez en Hongrie, Attila, il y en a tous les coins.
Exactement.
Alors,
Et le roman se termine en Californie. Uh-huh. Où le couple revient, parce que c'est leur maison qui sont là. Et je ne dirais pas comment ça se fait.
Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît.
Mais c'est vraiment là, un feu d'artifice, là, vous y croiriez pas.
D'accord.
Et durant tout le long du trailer, ils sont poursuivis par un monsieur qui s'appelle Bako.
Oui.
Monsieur Bako est un Hongrois. Et monsieur Bako, lui, il dit qu'il est le descendant direct d'Attila. Ah. Donc, évidemment...
Ben oui.
Le descendant direct.
Les pète-pète.
La
on
monnaie,
veut les pète-pète, on veut la monnaie, on veut pas
ses... On veut les tiares, les rubis, les
ben
épées,
oui.
les
ben
costumes,
oui,
les,
ben oui, ben
l'or,
oui.
les lingots d'or, d'argent. Mm-hmm. Alors, il les suit durant tout le long de à chaque fois qu'il trouve un trésor, M. Bako et son équipe, parce que c'est un monsieur qui est très riche, qui a fait fortune dans les produits pharmaceutiques, mais vraiment louche.
Oui, d'accord. Remarquez, c'est un pléonasme.
Oui. Oui. Moi, je ne l'ai pas dit, c'est vous, là.
Ah oui, oui, je l'ai dit.
Alors,
moi.
Si vous faites poursuivre, c'est
non,
pas
non, je l'ai dit. Oh là là, qui viennent les Monsanto et compagnie. Oh là là!
Alors c'est ça. Donc, il les poursuit tout le temps. Il est là, des fois, un petit peu avant eux, des fois après eux.
Ouais.
Des fois, il réussit à mettre le butin. Sam et Rémi récupèrent toujours le butin. Des fois, c'est un peu tiré par les cheveux. Comme moi, ce qui m'a un peu...
fatigué, là, mettons.
C'est qu'ils s'en vont en quelque part et ils découvrent le trésor toujours très rapidement.
Ah ben,
évidemment, ils sont en communication avec une collaboratrice en Californie, avec l'Internet. Maintenant, ils envoient une photo du site avec prise par satellite. Il y a un monticule là, ils s'en vont avec un détecteur de métaux et paf, ils découvrent.
Bon, on s'entend que c'est de la littérature
c'est
assez
ça,
facile, mais par contre, on apprend beaucoup sur Attila, les uns et les autres.
Oui, mais si vous voulez un supplément d'informations historiques, vraiment quelque chose que vous faites dans une biographie.
Oui, bien
ça,
sûr.
C'est vraiment thriller. Et quand je vous dis la fin, là, est vraiment un feu d'artifice.
Un feu d'artifice. Ouais. Alors, de Clive Costler, ça s'écrit Clive, C-L-I-V-E, Costler, C-U-S-T-L-E.
Non, pas comme Costler, le monsieur américain, là, le général
américain. Non,
Costler. C'est I-S-S-L-E-R.
Ah!
Oui, c'est ça. Oui.
Oh, ben voyez-vous, alors on m'a...
Ouais. J'ai fait,
on m'a enduite d'erreur.
C'est le courriel que je vous ai envoyé, c'est peut-être moi.
Ah,
parce
c'est
que
vous.
Au début, je pensais
bon.
Que c'était Costler. Mais quand je fouillais, je disais pas Costler, c'est Costler.
C'est Costler. Alors, ça s'écrit donc comment?
C-U-S-S-L-E-R.
Merci beaucoup,
Serge
Bradet.
Aux éditions Grasset, novembre 2016.
Merci.
348 pages.
Merci, puis à bientôt sur nos ondes.
Oui, absolument, absolument. Je serai toujours présent si vous m'appelez.
D'accord. Bonjour Yannick Olassa.
Bonjour.
J'ai mes Kleenex à côté de moi. Oui, allez-y mon petit, on va laisser sortir. Alors il va y avoir un gros bruit de porte parce qu'il faut que notre ami Serge Bradet nous quitte. Ben oui, moi j'ai ma boîte de Kleenex parce que, on va le dire tout de suite, ok, c'est la première de l'année 2018, mais c'est la dernière de Yannick. Et je voudrais qu'on prenne une minute pour que vous nous expliquiez pourquoi.
Oh mon Dieu!
C'est une belle raison!
Oui, ben en fait, c'est que depuis 10 ans, je caresse un rêve d'écrire. Bon. Et puis là, ben les prochains mois, là, je vais vraiment
Vous y atteler.
M'y atteler, oui, c'est
bon.
Ça. Je m'étais déjà tenté à un manuscrit de roman.
Mm-hmm.
C'est un peu pointu dans le contexte là, de l'édition. Aujourd'hui, là, il aurait fallu que ce soit plus large. Donc, puis moi, j'avais pas envie de l'élargir. Parce qu'on m'a offert. Si tu élargis dans ce sens-là, à ce moment-là, on pourrait être publié.
Ah.
J'ai choisi de ne pas le faire parce que il y avait un objectif à ce roman-là. Mm. Puis là, c'est plus, je vous dirais, dans la catégorie livre pratique essai. Je vous dis pas quoi.
D'accord.
Mais c'est quelque chose. Ça fait au moins 10 ans que ça me trotte plus que ça.
Bon,
ça me trotte
bon,
dans la tête.
Bon. D'accord. Alors, bravo et on va en parler un jour parce que ce sera enregistré. Alors, vous viendrez, vous serez l'invité principal de l'émission pour venir nous parler de ce texte si précieux que vous allez écrire, j'en suis convaincue, en 2018. Mais du coup, qui va nous priver de votre présence à l'émission, mais ce sera pour mieux vous retrouver quand la chose sera écrite.
Tout à fait.
Alors, en attendant, vous arrivez avec un livre que vous vouliez nous présenter, le dernier donc pour cette saison. Je vous laisse le soin de nous le présenter, Yannick Olassa.
Bien sûr. Il s'agit de Boo, de Neil Smith. Boo comme dans B-O-O, comme dans Fantôme qui fait Boo.
Oui, OK.
Alors, je vous dis d'emblée, c'est pas nécessairement un livre que j'aurais choisi moi-même parce que, bon, on dit là, les grands lecteurs, hein, on a certaines expressions, hein, on parle de pales, de piles à lire. Ben moi, j'ai des balles des les bibliothèques à lire. Alors,
oui.
C'est peut-être pas quelque chose que j'aurais pris. Je l'ai vu passer, mais je me suis dit, oh, peut-être un jour. Mais là, je participe à un club de lecture et puis, ben, comme le livre était publié en format poche cet automne, ben, il était de nouveau disponible. Mais je vous dis, là, j'ai vraiment, vraiment passé un bon moment de lecture.
Bon.
C'est un livre qui a, quoi, 400 pages à peu près.
Oui.
Et en fait, il s'agit de l'histoire d'Oliver Dalrymple, qui est un jeune garçon de 13 ans. C'est lui qu'on surnomme Boo parce qu'il est d'une pâleur fantomatique.
Mm-hmm.
C'est un, ce qu'on appelait dans le temps, un nerd, c'est-à-dire qu'il aime la science. Pour vous donner un exemple, il connaît la table périodique des éléments par cœur à l'endroit, et là, il est en train de la prendre à l'envers. Alors qu'un jour, il est à son casier et soudainement, il meurt.
Allons bon.
Tout de suite comme ça au début.
Au début?
Meurt. Mais oui. C'est dans les premières pages.
D'accord. Donc là, c'est ça. Vous nous là pour les gens qui crient là. Non. C'est dans les premières pages. D'accord. Ok.
C'est dans les premières pages, premier chapitre. Là, ça se passe comme ça.
Ouais.
Le petit, j'allais dire le petit garçon, le jeune garçon, ouais. En fait, il a un cœur qui est défaillant, un trou dans le cœur. Okay. Donc, ça l'étonne pas trop qu'il meure, voyez-vous.
Mm.
Et là, ben, tout le livre se passe dans cette espèce de paradis,
oui.
Je le dis entre guillemets, vraiment, parce que c'est un monde, c'est pas du tout comme on peut s'imaginer un paradis, là. Ça ressemble beaucoup plus, c'est régimenté,
okay.
C'est un peu plus glauque que la, ce qu'on peut s'imaginer. On s'imagine le paradis là, étant quelque chose de beau avec les oiseaux qui chantent et tout ça. Bon, bref. Alors, il doit s'habituer dans ce monde qui est régimenté, qui a des règles, où il y a des bienfaiseurs,
mm-hmm.
pas des bienfaiteurs, mais des bienfaiseurs qui doivent les aider à mieux vivre leur arrivée, quand ils sont renés, hein,
oui.
En attendant qu'ils soient remords, parce qu'après 50 ans, ils vont remourir.
Okay.
C'est-à-dire qu'ils vont disparaître de ce fameux paradis-là.
Okay.
Mais tous les 50 ans, ils vont rester à 13 ans dans ce qu'on appelle le village. Donc, ils ne vieillissent pas d'une ride, rien. Ils ont 13 ans pendant 50 ans. Et là, ben, quelques mois après son arrivée, il y a un copain de classe qui arrive soudainement. Et il va, ce copain de classe-là, lui révéler qu'il est peut-être pas mort comme il le pensait.
Ah.
Parce que Boo n'a aucun souvenir de comment il est mort. Lui, il se dit, ben, mon corps a lâché, voilà, merci, bonsoir. Mais peut-être pas. Alors...
Tiens donc!
Oui, revirement, toi, parce qu'à partir de ce moment-là, c'est bien évident que Boo veut savoir comment il est mort. Donc, pour la première partie du livre, on se promène, on apprend à connaître cette espèce de monde qui est hein, vraiment là, Neil Smith pour les détails. Là. Il va dans tous les détails, il se brosse les dents au bicarbonate de soude là-bas, leur alimentation végétarienne, il n'y a pas d'insectes, pas d'animaux, les immeubles se réparent tout seuls, les blessures guérissent rapidement. C'est vraiment un monde qui est fascinant. Donc, dans la première partie, on se promène dans ce monde-là. Dans la deuxième partie, c'est vraiment une chasse à l'homme.
OK, pour découvrir ce qui s'est réellement passé devant ce foutu casier.
Tout à fait. C'est captivant. C'est vraiment singulier. Tous les personnages sont attachants. C'est étonnamment parce que bon, il y en a qui sont peut-être pas nécessairement de prime abord sympathiques, mais ils sont attachants. C'est tous des jeunes, mm-hmm. et des jeunes vieux.
Des jeunes vieux, oui, c'est ça, oui.
Parce qu'il y en a qui, quand même, ça fait près de 50 ans, qui sont là au village.
Mais oui. Et c'est quoi? C'est pas de la littérature jeunesse, hein? C'est vraiment
non,
pour les. Non, pas du tout. C'est vraiment pour les adultes.
Oui. C'est pour les adultes. Il n'y a pas de ton mièvre ou de petites leçons. Là. C'est sûr qu'on parle d'amitié, mais c'est vraiment dans le sens des liens qui unissent les gens, la mort, la conception de la mort, mais bon, la vie après la mort.
Oui.
Ça, c'est sûr. Mais
okay.
C'est vraiment très, très intéressant. Écoutez, moi, j'ai été charmée.
Bon, alors, Boo, B-O-O, de Neil, N-E-I-L, Smith, hein, avec T-H à la fin. Mmh. Et puis, ça nous était présenté par Yannick Olassa, à qui on va souhaiter, évidemment, une très bonne année, hein, Yannick, et on va vous souhaiter ben, surtout ben, de réaliser ce rêve, enfin, de coucher ce livre sur papier, et surtout qu'il soit édité.
Et le grand défi.
Voilà, et qu'il soit lu par vous. D'ailleurs, tiens, ce serait très bien ici même, chez Vues et Voix, pour les auditeurs de Canal M. Ce serait vraiment formidable.
En tout cas, le sujet pourrait intéresser les auditeurs de Canal M.
J'en dis pas plus. D'accord.
Je vous souhaite bonne année à vous tous aussi, toute
merci.
L'équipe, les auditeurs.
Merci infiniment et merci beaucoup pour votre participation régulière, Yannick. C'est toujours un plaisir d'entendre ce que vous avez à nous dire sur les bouquins. Alors, c'est vrai que vous allez nous manquer.
Oh, ben vous allez me manquer aussi. C'est un plaisir qui était toujours partagé.
Allez, bon vent, bonne année. Salut.
À bientôt. Au revoir.
Écoutez, je suis très, très heureuse de vous parler de ce qui s'en vient la semaine prochaine. Je vais avoir un entretien téléphonique avec un auteur qui s'appelle Jean-Fred Bourquin. Pourquoi téléphonique? Parce qu'il habite en Suisse. Alors avouez que ça aurait quand même fait un petit peu loin pour lui, pour venir dans notre studio. Cet homme-là a écrit, a rédigé, a compilé en fait un paquet de notes et d'extraits de conversations qu'il a eues avec des gens qui étaient dans l'entourage de Paul Buissonneau. Alors le livre s'appelle Paul Buissonneau en mouvement, c'est sorti sur papier chez Boréal. Alors on suit Paul Buissonneau depuis qu'il est enfant, qu'il vit en banlieue parisienne, en passant par les compagnons de la chanson dont il a fait partie. Entre autres, ils ont chanté avec Piaf, ils ont côtoyé Aznavour, tout ça. Et on suit évidemment l'aventure de la roulotte. Hein. C'était ça qu'il avait créé notre ami. D'un coup, j'ai le doute. Est-ce que c'était la grande roulotte? Non, c'était la roulotte elle-même toute seule. Et puis donc, et le théâtre pour enfants qui l'a amené aussi au théâtre pour adultes. Alors c'est toute une vie que nous suivons via les témoignages d'André Lachapelle, par exemple, Yvon Deschamps, Marcel Sabourin, Michel Tremblay, Denis Marleau, Yves Desgagnés, Robert Charlebois, etc., etc., etc. J'ai un extrait pour vous. On est en page 31. Nous sommes à Montréal en 1948. Le temps des amours entre Fred, Paul et leurs deux amies québécoises ne dure pas longtemps. On comprend que les deux compagnons de la chanson se sont fait des petites copines à Montréal. Déjà, les compagnons quittent le Québec pour se rendre à New York par le train. Le 21 septembre, Marcel Cerdan est couronné champion du monde des poids moyens au Roosevelt Stadium contre le tenant du titre Tony Zale. Edith, dont Marcel est devenu le grand amour, présente les compagnons au boxeur. Edith, on parle évidemment d'Edith Piaf. Ensemble, ils célèbrent sa victoire et les jours suivants, les chanteurs s'achètent des gants de boxe afin de s'essayer au noble art. Quelques jours plus tard, dans l'appartement de Fred et de Paul, Aznavour propose un combat amical à Paul Buissonneau. Après avoir asséné un direct sur le nez de son copain Charles, Paul reçoit en retour un terrible gauche dans les côtes. Arrêt du combat. Durant plusieurs semaines, les prestations scéniques de Paul seront accompagnées de douleurs à faire grimacer les plus endurcis. Bientôt, un médecin diagnostique plusieurs côtes cassées. Alors voyez-vous, un match de boxe entre Charles Aznavour et Paul Buissonneau quand ils étaient encore tout jeunes. Eh bien, c'est à cela que ça mène et ce livre est truffé comme ça d'anecdotes merveilleuses sur notre bougonneux français qui a tellement été aimé et adoré par le milieu artistique ici à Montréal, ben, au Québec en général. Je manque de temps pour vous présenter quelques rafales, mais tiens, pourquoi pas du Boucard Diouf que nous avons déjà reçu à l'émission. Boucard disait, pour une raison X ou Y, « Si vous ne pouvez pas lire ce livre avant votre premier baiser, ce n'est pas grave. Il vous sera aussi bien utile avant de tomber amoureux, de former un couple, de vous marier, de fonder une famille, d'élever vos enfants et même de devenir grands-parents. Ce livre est une exploration humoristique et scientifique sur la reproduction humaine depuis le coup de foudre jusqu'à ce que les enfants nés du couple quittent la maison familiale et se reproduisent à leur tour, nous dit Boucard Diouf pour présenter son livre. Boucard disait, pour une raison X ou Y, maintenant disponible en audio adapté. Alors voilà, pour cette première émission de 2018, c'était Clotilde Seille qui vous l'a présenté, cette émission. Et je voudrais remercier tous ceux qui y participaient. Gérald Cousineau, Jean-François Caron, Serge Bradet et Yannick Olassa. En régie aujourd'hui, Mathieu Tessier. Et tous ensemble, nous vous souhaitons encore une fois une très très belle année 2018. Et surtout, de bonnes lectures. Régalez-vous les oreilles, mes amis. Salut, à la semaine prochaine.